On arrive au dernier épisode de notre série sur la culture aborigène avec Greg. Dans celui-ci, on va parler de comment partir en Australie, comment aller rencontrer les aborigènes. Greg va nous partager son retour d'expérience et vous allez voir que c'était plein de surprises et plein de naïveté quand il est parti. Du coup, il va vous dire surtout ce qu'il ne faut pas faire et puis ensuite un peu plus les conseils quand même que vous pourriez appliquer pour votre propre voyage si jamais vous sentiez vraiment l'envie d'aller rencontrer les aborigènes. Même si à l'heure actuelle, avec le Covid-19 et tous les soucis écologiques par rapport à notre chère planète, voyager jusqu'à de l'autre côté de la planète, c'est pas forcément très adapté. Mais quand même, je me dis que si vous avez vraiment l'envie, si vous avez quelque chose qui vous anime et qui vous appelle là-bas, je trouverais ça dommage de pas y aller. Je vous retrouve tout de suite avec Greg. Salut et bienvenue sur les podcasts de Wacademy. Je m'appelle Gauthier Aubé et je suis le fondateur de Wacademy, une école de didgeridoo en ligne. Salut Greg.
Salut Gauthier.
Bon, on se retrouve pour ce dernier épisode là pour parler de comment partir en Australie, comment aller rencontrer les aborigènes. Toi, tu y es allé plusieurs fois. Donc, on va essayer de voir un peu les différentes étapes et essayer de voir comment toute personne qui serait intéressée, alors même si avec le corona, c'est pas trop d'actualité, mais c'est toujours intéressant pour ceux qui sont vraiment passionnés et qui voudraient aller rencontrer les aborigènes. Première chose, l'Australie, c'est loin. Comment, alors toi, je ne sais pas si tu avais des contacts avant, mais comment est-ce que quelqu'un qui est ici, qui ne connaît rien, il se dit « Tiens, je veux envie d'aller rencontrer les aborigènes en Arnhem Land pour le didgeridoo », par où il commence ?
Alors, eh ben, pour la petite histoire, Gauthier, pour te et vous raconter mon premier voyage, il ne faut surtout pas faire comment j'ai fait lors de ma première expérience. voilà. Mais ça permet de nier la ligne conductrice, en fait. En gros, la première année, quand je suis allé en Australie, je me suis dit, bon, bah, je vais aller en Australie et puis je verrai bien comment ça se passe. J'avais une ligne conductrice parce que je voulais participer au festival Garma. Ça, on pourra y venir un tout petit peu plus tard dans le podcast parce que ça permet d'être un lien en fait justement avec les aborigènes. Donc je savais que je devais participer à ce festival, mais c'était que 8 jours après que j'atterrissais en fait du côté de Gove, le petit aéroport.
Alors Gove, tu peux nous dire juste où c'est dans l'Australie parce que...
Alors c'est territoire du Nord en fait, c'est une toute petite ville qui se situe à proximité d'Irkalla et en fait c'est l'un des seuls aéroports qui permet la liaison Darwin-Gove justement. Donc en gros comment ça se passe pour aller en Australie, vous prenez un avion, la plupart du temps c'est Singapour, on va à Singapour et de Singapour on va en Australie. Par exemple Singapour-Perth, Perth-Darwin, Darwin-Gove. Donc ça fait quand même beaucoup de liaisons, mais en fait c'est un tout petit, enfin c'est même pas un aéroport, c'est un aérodrome, donc c'est une toute petite base, mais qui permet d'atterrir directement en fait en terre aborigène. Et du coup, moi j'arrivais là-bas, et en fait j'avais 8 jours à tuer entre guillemets, en ne connaissant ni le pays, ni les dangers, ni les aborigènes, ni personne là-bas.
Et t'étais à Gove.
Et j'étais à Gove. Voilà, j'ai atterri à Gove.
Ah ouais, d'accord.
Tout allait bien. Dans mon esprit, tout allait bien. Tout allait bien se passer.
Sur le papier, tout allait bien.
Sur le papier, tout allait bien. Avec le recul, j'étais totalement irresponsable parce que, avec les dangers qu'on trouve en Australie, c'est à ne pas faire. Que ce soit les dangers, les animaux, comme les dangers au niveau des habitants, parce que les aborigènes ne sont pas forcément très ouverts non plus à ce qu'on arrive chez eux comme ça en disant bonjour, je viens vous voir. Il y a certaines règles à respecter. Et du coup, je suis sorti de l'aéroport, je me suis dit, bon, et maintenant, je fais quoi? Et j'étais là, sur le tarmac, devant la route, la grande route, là, et bon, je vais où, je fais quoi? Et je me suis dit, je vais faire du stop.
Ah oui, d'accord, t'étais vraiment à l'aventure.
Ah ouais, j'étais vraiment à l'aventure dans ma tête, ouais, complètement. Et en fait, par chance, mais vraiment par chance, j'ai rencontré un aborigène qui se rendait, en fait, dans le site d'installation du festival à Garma. C'est-à-dire, en fait, que c'était un volunteer, un aborigène volontaire.
Un bénévole
qui, qui aide, en fait, à la construction du site. Donc, par chance, en fait, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu vas? Il m'a dit, mais c'est n'importe quoi ce que tu fais là. Et du coup, je lui ai expliqué que je m'étais inscrit à ce festival pour participer à l'activité Hidaki Master, donc pour fabriquer des instruments. Il m'a dit, oui, mais c'est que dans 8 jours. Et je dis, oui. Il me fait, écoute, si tu veux, viens avec moi. On va atterrir sur le site. Si tu es d'accord, je regarderai avec les responsables et tu pourras être bénévole avec nous le temps de l'installation du site.
Ah super!
Voilà, et en fait c'est là où a commencé mon aventure en Australie, c'est que j'ai atterri en fait à Garma sur le site du festival et j'ai pu voir tout le off du festival Garma, donc toute l'installation du festival et participer en tant que bénévole à l'installation du site jusqu'au moment où je pouvais faire l'activité.
Ah ouais, t'as été carrément guidé là, c'est super, c'est une belle histoire.
Voilà, ouais, c'est un bon début, mais pour dire qu'il faut surtout pas faire comme ça.
Et alors donc du coup, comment faut faire ?
Alors comment faut faire ? Eh bien, le plus simple, très honnêtement, c'est d'avoir des contacts. Alors par contact, j'entends alors soit des amis qui vivent en Australie, soit des personnes qui travaillent dans les centres d'art. Actuellement, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire arriver à être en contact avec un des responsables ou une des personnes qui travaillent à un des centres d'art. Il y en a plusieurs, hein. Ça peut aussi bien être celui d'Irkala, comme celui de Maningrida ou comme d'autres, et en fait leur demander s'il est possible de venir à leur rencontre et qu'est-ce qu'il est possible de faire. En sachant qu'on fait pas ce qu'on veut en Australie. On n'a pas le droit, en fait, de comme je l'ai fait, d'atterrir et de dire « bon ben voilà, allez, je vais aller en terre aborigène comme je le veux ». C'est interdit, en fait.
Ah, mais t'avais un permis ou t'avais pas de permis ?
Ben, en fait, j'avais l'autorisation de séjourner de par le festival Garma. Mais en toute logique, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que il faut en effet, comme tu le dis, Gauthier, un permis de séjour en Australie.
Mais alors, on reviendra au permis par rapport aux terres aborigènes et tout ça. Je suis aussi allé en Australie et puis quand je suis arrivé en Australie, très naïvement, moi, je me disais, je vais laisser le voyage me guider en me disant, soit ça ira sur le didgeridoo contemporain, soit la vie va me guider plus vers le trad aborigène, celle à la rencontre des aborigènes. Donc je me suis laissé un peu guider. Bon, ça a été un peu la merde quand même. Ça a été un peu long et je me suis senti très seul. Pas dans la même démarche que toi, mais quand même, c'est avec beaucoup de naïveté et de crédulité aussi. Et je veux dire, je trouvais qu'il y avait un gouffre entre... l'Australie et les terres d'Arnhem, tu vois, je veux dire, du coup, je repose un peu ma question, c'est-à-dire que quand tu disais qu'il faut contacter des gens de centre d'art, avoir des contacts et tout, j'imagine qu'ils sont quand même beaucoup sollicités, tu vois, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut arriver avec un projet, dire, ben en fait, je viens pour ça ou ça, ou si t'es pur touriste, parce que d'un autre côté, j'ai l'impression que chez Djalou, il y a beaucoup de touristes. Tu vois, blanc. Quand on voit des photos, il y a toujours du monde, j'ai l'impression.
Oui. Ben, en fait, si tu veux, il faut quand même penser que la terre d'Arnhem, c'est une terre, entre guillemets, de réserve. On n'a pas le droit d'y rentrer comme ça. C'est aussi pour ça, en fait, que c'est pas si simple. Parce que, en fait, il y a des réserves, il y a des zones où le blanc n'est pas autorisé d'aller. Parce que, suivant les cérémonies et les terres aborigènes, on n'a pas le droit, en tant que blanc, d'y séjourner. Donc, il y a vraiment des règles à respecter. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a un petit peu tout un mystère là autour. C'est que c'est pas pour rien. C'est dans un but précis, justement, de réguler l'arrivée des blancs. Des blancs aussi bien européens comme des australiens, comme des asiatiques, il y en a beaucoup beaucoup, des chinois ou des asiatiques. Alors comme tu le dis, chez Djalou il y a toujours beaucoup de blancs, mais en fait au final si on synthétise, on les connaît quasiment tous, parce que Djalou c'est quand même une grande famille, et pour la plupart du temps c'est quand même des initiés qui y vont, certes à tour de rôle, mais on retrouve quand même pas mal les mêmes personnes.
Ah oui, d'accord.
Ta question de est-ce qu'il faut un projet, comment ça se passe ? Il n'y a pas que les centres d'art, en fait, qu'on peut contacter. Il y a, par exemple, là, je prends l'exemple de Loïc Termitadige, qui est parti, je crois que c'était l'année dernière, qui a emmené un petit groupe de personnes avec lui. Donc Loïc, c'est un Belge qui a un site internet Termitadige, qui a emmené un petit groupe de personnes avec lui en terre d'Arnhem. Donc lui est déjà initié, donc il connaît déjà les règles, il sait déjà comment ça se passe. Donc lui, il peut très bien, je me dis, se dire, voilà, j'atterris à Darwin, je loue un 4x4, je prends 5 personnes avec moi, et on voyage en terre d'Arnhem avec ces 5 personnes. Mais ce sera sous autorisation. C'est-à-dire que en amont, il aura demandé les permis, il aura les permis de route, etc. Donc ça peut être une autre opportunité, c'est-à-dire connaître quelqu'un en Europe qui part voyager en Australie et partir avec lui. Après, au niveau des centres d'art, c'est sûr que c'est pas si simple. C'est-à-dire que, concrètement, comme tu l'as dit, ils ont beaucoup de demandes. Mais ils répondent quand même généralement à quasiment tout le monde. Dans le sens où les centres d'art, c'est quand même quelque chose qui a pour but de faire travailler les aborigènes. Donc c'est quand même quelque chose à but, on va dire, lucratif. Donc s'ils veulent vendre des objets des aborigènes, il faut que les personnes viennent pour acheter. Après, par expérience, un autre moyen, c'est justement le festival Garma. Ça, c'est quelque chose que je parle souvent parce que j'y étais. Alors, c'est quelque chose de très cher, je le cache pas, en termes de budget pour participer à l'activité justement Hidaki Master. Donc, en gros, c'est justement quelque chose qui est organisé par le gouvernement, qui a pour but d'introduire les Blancs à la culture aborigène. Voilà, c'est quelque chose d'encadré par le gouvernement, en sachant qu'il y a des milliers d'aborigènes qui viennent des quatre coins de la terre d'Arnhem. Donc, il y a vraiment toutes les zones qui sont représentées. C'est très très riche culturellement parlant. Et en même temps, c'est un mini Arnhem Land dans un espace restreint. C'est assez incroyable quand on y est. Mais ça permet en fait d'être en contact direct des aborigènes via en fait une aide gouvernementale.
D'accord. Et ça, le Garma, c'est quand à peu près?
Garma, oh là, je voudrais pas dire de bêtises.
C'est pas en août? Non,
Il me
je sais
semble que
pas.
c'est en août, début août, je crois.
Ouais, ok. J'essaierai de mettre le lien.
Oui. Donc voilà, et en fait à Garma, dans le festival Garma, il y a de multiples activités. Il y a sur l'éducation, sur la santé, sur les mouvements de la Terre, donc dans le sens la géographie, la géologie, il y a l'histoire des aborigènes, il y a vraiment des multiples points qui sont abordés, et en fait, du coup, dans tous ces points, il est possible que les Balanda, donc les Blancs, viennent participer et apporter leur savoir et partager en fait avec les aborigènes par les biais de conférences. À l'exemple, moi j'ai participé dans ce qu'on appelle le Hidaki Masterclass. Donc ça a été en fait dans le but de rencontrer des fabricants de Hidaki, d'aller dans le bush couper avec eux, de travailler et d'apprendre à jouer. Et juste pour la petite anecdote, c'est là au tout début où j'ai rencontré Jalou. Parce qu'à la base, en fait, j'aurais dû faire cette activité avec Milke Monungur, mais qui est décédé la même année, en fait. Et c'est Jalou qui a pris la relève.
Ouais, d'accord, et donc c'est là qu'il y a eu la connexion avec Jaloux.
Voilà, c'est ça.
Donc ça, c'est le Garma Festival, là, effectivement, avec toutes tes explications, je commence à comprendre qu'il y a quelques pistes quand même, même pour ceux qui n'ont pas du tout de contact et tout ça, ils peuvent essayer deux, trois choses. Je pensais mettre les liens au moins des sites internet des différents centres d'art, je ne sais pas si on peut les retrouver assez facilement.
Ah si si, bah en fait de toute façon il suffit de taper Irkalla Art Center ou Maningrida Art Center ou Raminginin Art Center, le Bula Bula Art. Il y en a plusieurs en fait, hein, le
Ouais, super.
Dimuru, voilà. Il y en a plusieurs, on pourra les mettre sans problème sous le podcast, ouais.
Oui, pour toi, ça te paraît tout bête, mais pour quelqu'un qui connaît pas
Oui,
Raminginin
c'est
Art
vrai.
Center, tu vois, il l'aurait jamais deviné.
Ouais.
Super, ben, on mettra le lien des centres d'art. J'avance un peu, ça fait déjà un petit moment qu'on papote là. Donc, admettons, j'ai réussi à contacter, quoi, j'ai un contact là-bas par le biais du Garma Festival. Une fois que j'arrive, donc, t'as dit, on passe par Darwin, ensuite on va à Gove. J'ai le permis à demander, ça c'est pareil, je me demande comment est-ce que ça se passe, est-ce que tu peux faire ça par internet? Est-ce que tu dois avoir une recommandation de quelqu'un? Est-ce que moi là je peux faire une demande demain de permis pour rentrer en terre d'Arnhem? Est-ce qu'il faut une bonne raison?
Alors, déjà, il faut savoir qu'il faut un visa. Ça, c'est le truc basique quand on va dans un pays type Australie, il faut faire le visa. Donc, généralement, en fait, c'est quand vous prenez votre billet d'avion sur Internet, on vous demande les raisons pour lesquelles vous allez en Australie. Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour les vacances? Est-ce que c'est pour voir la famille? Et en fonction de ça, en fait, on va vous accorder un type de visa. Donc, généralement, c'est le visa voyage-vacances qui permet déjà d'atterrir en Australie. Déjà, premier point. Après, comme tu le dis, en fait, quand on atterrit à Arnhem Land, et notamment à Gove, il faut aller voir en fait les services d'Imuru. D'Imuru, en fait, c'est un service qui vous délivre un papier vous autorisant à circuler en terre d'Arnhem avec un véhicule. Donc là, Gauthier, je t'ai transmis les documents, on pourra les transmettre. Donc vous verrez, il y a deux photos en fait. La photo d'un de mes permis justement que j'avais fait à Dimourou, et l'autre photo, c'est un document où on voit en fait les routes sur lesquelles on peut circuler et les zones où on n'a pas le droit d'aller. Les routes qui sont viabilisées pour une voiture normale ou les routes où il faut absolument un 4x4. Ce permis est payant. De mémoire, c'est 45 $, quelque chose comme ça, et valable, je crois, 2 mois, en fait. Donc, en gros, il faut aller dans ce centre à Dimuru, bah voilà, présenter votre identité, dire ce que vous venez faire, parce que c'est pareil, en fait, on n'a pas le droit de séjourner ou de circuler librement dans des buts par exemple, si on vient pour faire du business ou si on vient juste pour voyager, c'est pas la même chose. Ce sera pas le même type de permis, ni les mêmes taxes. Et du coup, ben en fait, une fois que vous avez ça, c'est un petit peu le libre droit de circulation, et ça vous permet surtout de savoir où est-ce que vous pouvez aussi camper. parce que bah, c'est pareil, on vous donne des petites cartes avec des endroits dans lesquels vous, auxquels pardon, vous pouvez planter votre tente, aller en véhicule. Il y a des zones en fait qui sont privées, qui sont sacrées, dans lesquelles vous n'avez pas le droit de circuler en fait.
Ok, donc ça c'est le permis hein, dont tu parles en fait. Le permis, tu le demandes directement sur place.
Oui, okay. C'est ça.
Et Gove, juste pour remettre un peu le contexte, est-ce que Gove c'est cette petite ville minière?
Oui, en fait, Gove est juste à côté d'Irkala, hein, c'est à quelques kilomètres, et c'est en effet une ville, bah, c'est pour ça qu'il y a aussi un aérodrome, parce que bah, justement, c'est une ville ultra, comment on dit ça, artisanale, enfin, je sais pas si c'est le terme, où il y a en fait toute l'artisanat lié autour des mines, en fait.
Ouais, d'accord. Tu parles d'artisanat ou d'industrie?
Industriel.
Ouais, c'est ça.
Industriel. Ouais. Industriel. Okay. Voilà. C'est plus le terme. C'est le terme que je cherchais.
Oui, d'accord. Ok. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à Gove, c'est pas forcément, quoi. En tout cas, je crois que c'est en discutant déjà avec toi ou avec d'autres, c'est pas la ville qui fait rêver, quoi.
Ah non, pas du tout. Non. En fait, bah, c'est la ville ouvrière. Hein. Il y a quasiment rien à voir. Il y a les maisons. Il y a, bah voilà, ça s'arrête là en fait. L'aérodrome, puis terminé. Hein. Et puis les industries liées à la mine. Hein.
Ouais. Je précise ça parce que je trouve que faudrait pas se faire de fausses images et qu'il y a un côté quand même très brut de décoffrage quand même quand tu t'arrives là-dedans. J'ai l'impression que c'est très, ouais, c'est pas l'exotisme qu'on pourrait attendre, quoi.
Non, pas du tout.
Et donc t'arrives là-bas et tu peux louer une voiture à Gove, je suppose ?
Oui, c'est possible, mais c'est hors de prix.
Ah ouais, ok, t'es pas obligé d'avoir une voiture, parce que quand même, là-bas, t'es obligé, non ? Ou...
Ben, en fait, si, c'est clairement recommandé. Alors moi, la chance que j'ai eue, c'est que la première année, du coup, j'ai eu cette personne qui m'a amené à Garma, et après, à Garma, du coup, j'ai rencontré Jalou, et aussi... quelqu'un en fait qui s'appelle Mathias Müller, qui est un Suisse et qui était là-bas en même temps que moi.
Ah oui.
Qui lui en fait avait un 4x4 et après on a partagé le reste du voyage ensemble.
Petite dédicace à Mathias.
Oui, petite dédicace à Mathias. Ça a été un échange très fort qu'on a eu tous les deux et puis un hasard complet qu'on se retrouve là-bas au même moment. Et après, par contre, ce qui est clair, c'est que si pour être à Arnhem Land, il faut un 4x4. Donc les deux autres fois où j'y suis allé, j'ai partagé ça avec Eric Terrades, qui en fait, lui, était déjà en Australie avec sa famille depuis un moment, et qui est venu me rejoindre avec son 4x4, justement, à Arnhem Land.
Donc lui, il n'est pas arrivé en avion à Gove, il a pris son 4x4, il est parti de Darwin, en gros, il a tout traversé.
Exactement, exactement.
Il faut être équipé quand même, on le précise, non ?
Oui, parce que il faut être équipé, et il faut... Alors là, c'est pareil, c'est quelque chose qui se prépare, parce qu'il faut déjà du très très bon 4x4, tout terrain, il faut de quoi se nourrir, de quoi se protéger des moustiques, des mouches, il faut de l'eau potable, il faut beaucoup d'essence, parce que ben il faut pas croire, il n'y a pas non plus des stations essence tous les 5 km, il faut des pneus de rechange, enfin c'est tout un équipement assez conséquent qui fait que oui, quand on loue un 4x4, il faut vraiment, vraiment faire attention où on le loue, pour combien de temps et quelle est la destination surtout.
Ouais, je pense que c'est quand même important de préciser ça parce que depuis nos pays tempérés, on ne se rend pas trop compte, mais c'est vrai que moi je suis parti juste, c'était 10 jours je crois, en terre d'Arnhem. C'est vrai que tu déconnes pas quand même parce que ça peut être réellement dangereux quoi. Si tu tombes en panne au milieu du bush, si t'as le moindre problème, je me souviens qu'il avait pris un radiateur, tu sais le radiateur de voiture à l'avant du moteur là, au cas où on tape quelque chose et tout ça, tu vois, il y avait des pièces comme ça qui étaient des pièces maîtresses qu'il fallait emporter aussi et que on se rend pas compte je trouve tant qu'on est ici en France ou dans un pays tempéré que c'est quand même ouais tu peux mourir là-bas.
Ah oui mais clairement, c'est pour ça que je dis ne surtout pas faire comme je l'ai fait la première fois, c'est que j'étais insouciant en fait moi à l'époque, et du coup c'est clairement un pays qui est hostile,
oui.
On peut le dire, hein. On peut vraiment le dire, c'est le terme, d'autant plus que les routes goudronnées il y en a très peu, il y a plus ce qu'on appelle des gravel roads, donc des immenses routes rouges de terre battue, mais après comme il y a deux saisons, la saison sèche, la saison des pluies, ben, les routes en fait elles sont très souvent sinistrées, et si on n'a pas un très bon 4x4, déjà pour peu que ce soit au moment de la saison des pluies, bah, tout est inondé. Ou à l'inverse, si c'est la fin de la saison des pluies, début de la saison sèche, il y a de la boue de partout. Ou à l'inverse, si c'est la saison sèche, il va y avoir des nids de poules et des creux énormes dans la route qui fait que, ouais, il faut avoir un bon 4x4 et être bien équipé. Et si possible, un 4x4 climatisé. Ça, c'est un peu le luxe. Mais pour les températures qu'il y a là-bas, ça peut être utile aussi, quoi.
Ouais, c'est vrai que ça tape hein, quand même. Ok, donc on reprend le fil de notre histoire. Donc, t'as une voiture que t'as louée à Gove. On parlera de tout le tarif, tout le prix que ça coûte, hein, parce que c'est extrêmement cher, mais on en parlera à la fin juste pour faire un peu la synthèse. T'arrives à Gove, tu as ton permis, t'as loué ta voiture. Avant, t'as eu un contact avec, je sais pas, le centre de Yirkala, par exemple. Où est-ce que tu vas? Est-ce que tu as des campings? Tu parlais de zones où on pouvait camper. Est-ce que tu vas à l'hôtel? Est-ce que tu vas directement dans... Quoi, j'imagine que non, mais voir Jalou. Hein. Je parle pas de toi, je parle de quelqu'un qui part comme ça. Comment ça se passe? C'est quoi la prochaine étape?
Alors, ben, en fait, si la personne est allée à Dimourou chercher son permis pour rouler, pour circuler, pardon, en fait, à Dimourou, il donne des petites cartes où on peut camper. La plupart du temps, en fait, c'est ce qui se passe, c'est ce que les blancs font, sauf les blancs très fortunés peuvent louer des petites chambres en fait climatisées au niveau de Gove ou Irkala, il y en a, hein, mais c'est vraiment hors de prix, c'est quelque chose comme 100 ou 150 dollars la nuit, donc c'est australien. Hein.
C'est, ouais, alors ça fait
90
60.
Euros. Ouais,
ah ouais, 90,
ouais, 80,
ouais,
90,
ouais,
euros à peu près. C'est hors de prix, c'est pour une nuit. Et du coup, la plupart du temps, c'est on va faire du camping. Et là, en fait, ben, sur les cartes qu'on nous donne à Dimourou, il y a des zones où on peut camper au bord de la plage, par exemple, hein, ou même dans le bush. À proximité de ruisseaux, par exemple, si on veut se laver. La prochaine étape, ce serait ça, c'est trouver un endroit où on peut camper avec l'autorisation d'y rester quelques jours.
D'accord. Et cette autorisation, tu le demandes
Non, bah après, l'autorisation, c'est dans le sens, c'est plus nous qui établissons ça en se disant, bah voilà, je vais rester tant et tant de jours à cet endroit-là parce que je m'y sens bien. C'est suivant, en fait, le plan qu'on a établi de ce qu'on veut faire durant notre séjour en Australie. Si on veut aller voir telle et telle communauté qui se trouve à cet endroit-là ou à 300 ou 400 km plus loin.
Donc là, une fois que tu as ton petit camp de base, on va dire, c'est là que les contacts, les personnes avec qui tu as pris contact avant de partir jouent leur rôle, hein, parce que j'imagine qu'après, si tu arrives dans une communauté comme ça, les bras ballants, tu vas boire le thé comme ça.
Non, justement. Mais en fait, voilà, c'est là où les contacts entrent en jeu, c'est que ben, suivant les moments, on n'a pas le droit de rentrer dans les communautés. S'il y a des cérémonies qui sont en cours, on n'a pas le droit d'y aller. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut respecter. Donc là, il vaut mieux justement se renseigner, demander, ben voilà, est-ce que je peux aller voir Jalou? Est-ce que je peux aller voir un autre aborigène? Est-ce que c'est possible de séjourner dans cette zone? Normalement, à Dimourou, ils le disent aussi. Ils le disent aussi, ben voilà, à telle et telle période, il est interdit d'aller à Manigrida parce qu'il y a une cérémonie en cours qui va être faite. En règle générale, si on se renseigne un petit peu au niveau des aborigènes, on le sait vite. Le bouche à oreille arrive vite en fait de bah, cette zone est interdite parce que ou cette zone est coupée parce que on le sait rapidement. Donc là, une fois qu'on a demandé à nos contacts, par exemple au centre d'art, pensez-vous que je puisse aller voir Jalou dans sa communauté? Il nous dit bah oui, c'est possible, il se trouve à cet endroit-là. Allez-y. Donc là, après, c'est comment on y va, enfin dans quelle approche on arrive là-bas. C'est là en fait où c'est toujours délicat quand on est quelqu'un de nouveau en fait en terre aborigène, il vaut mieux, moi je recommande vraiment fortement d'être accompagné de quelqu'un qui est connu dans le clan, parce que il en va d'une question de respect aussi et d'intégration de la personne. Ce sera beaucoup plus simple d'être intégré via quelqu'un que d'y aller tout seul en disant bonjour, je m'appelle Grégory, je viens vous voir.
Oui, c'est ça, parce que moi, c'est ce qui m'avait un peu marqué en Australie. J'avais fini par me dire, ah oui, si je viens pas avec un projet, par exemple, un projet de, je sais pas, de faire un documentaire ou parler de, peu importe, toutes sortes de projets, ben, c'est comme si t'arrivais dans un village au fin fond de la Corrèze et puis t'arrives dans le village, t'es, bonjour. Je viens vous voir, tu vois. Et il y a rien de quoi. Je trouve ça très délicat. J'ai trouvé ça très délicat, moi, en tout cas.
Oui, il en va en fait tout simplement du respect, c'est-à-dire que moi, de ma philosophie, je ferai pas comme ça. C'est-à-dire que je n'arriverai pas en disant bonjour, c'est moi. Je viens m'installer chez vous. Enfin, ça se fait pas. On le ferait même pas chez nous, en fait, ou très peu. Donc c'est pareil en terre d'Arnhem, il vaut vraiment mieux avoir un contact et du coup que ce contact vous emmène là-bas. Très souvent en fait, le simple fait de rester au centre d'art aussi, le fait d'y rester par exemple une journée pour déjà apprécier les objets d'art qui se trouvent là-bas, bah, vous pouvez rencontrer des aborigènes parce que les aborigènes viennent très régulièrement au centre d'art pour apporter leur art. Donc déjà là, en fait, il peut y avoir des connexions qui se créent. Ou alors, autre chose, les aborigènes sont friands de football australien. Et en fait, juste à côté du centre d'art d'Irkalla, il y a le terrain de foot de d'Irkalla, et ils se rassemblent très régulièrement, en fait, là-bas. Par expérience, Jalou est fan, en fait, justement, de leur équipe, qui s'appelle la Baiwara, donc l'équipe du tonnerre. Larry, le fils de Jalou, joue dans cette équipe. Et pour eux, c'est vraiment un événement très fort, en fait, ça. Et du coup, il y a beaucoup, beaucoup d'aborigènes qui se rassemblent sur ce terrain de foot. Donc ça peut être aussi un moment où, ben voilà, vous allez voir le terrain de foot et vous commencez à discuter un petit peu avec quelqu'un qui se trouve là-bas.
Ouais, c'est marrant ça, j'aurais pas cru.
En fait, c'est un échange simple qui peut se créer, une connexion simple, sans être intrusif. Voilà, c'est vraiment le terme.
Oui, parce que évidemment, quand je sais pas, on voit sur Facebook ou tous les réseaux sociaux, on peut voir des photos de quelqu'un qui allait voir Jalou et donc du coup qui est avec lui en train de, je sais pas, faire son didgeridoo, aller couper un didge ou peu importe, prendre une masterclass avec lui. Par exemple, si cette personne, elle reste 2 semaines en terre d'Arnhem, moi je me suis toujours posé la question, à quelle fréquence tu peux aller dans une communauté et passer du temps? Tu vois, est-ce que parfois, toi, il t'est arrivé de dormir dans la communauté? Moi, je sais que quand on y était allé, les hommes, on était 3 hommes blancs, célibataires, et donc on dormait en dehors de la communauté parce que c'était pas admis, quoi.
Ben en fait, ça, c'est entre guillemets l'aborigène qui le propose. Moi, à chaque fois que j'y suis allé, on a pu planter les tentes dans le jardin de Jalou, en fait, hein. Donc, enfin, la première fois, non, c'était pas le jardin parce qu'ils n'étaient pas au même endroit, c'était sur la plage, autant pour moi. Les 2 autres fois, on avait planté les tentes chez eux et on était resté, oui, plus d'une semaine. Après, par expérience, personnellement, j'aime pas y rester très longtemps parce qu'on sent qu'on n'est pas non plus à notre place. Et du coup, moi, je préférais. Alors, on est resté 2 jours complets, 3 jours complets, pardon, là-bas à chaque fois, parce qu'on allait couper du hidaki, beaucoup en quantité, une dizaine de troncs, puis en fer. Donc, ça prenait du temps, de l'énergie. Donc, du coup, c'était plus facile de rester là-bas. Mais après, je préférais retourner dans des endroits où on pouvait camper et la journée après revenir dans le clan pour avoir aussi cette tranquillité, cette sécurité aussi, parce que ben il y a des fois dans le clan où avec les problèmes d'alcool et tout, il y a quand même pas mal de maisons, c'est pas forcément 100% sûr quand on est blanc. Ouais, il faut quand même faire attention. Il y a des fois où on est plus en sécurité seul dans le bush que dans certaines communautés, faut quand même faire attention.
Ah ouais, même si l'alcool est interdit, ça, y a quand même beaucoup d'alcool qui passe.
Mais bien sûr, bien
J'ai cru
sûr.
qu'il y avait beaucoup d'alcool, mais en dehors des communautés, que dans les communautés, c'était quand même assez respecté, que les aborigènes, en gros, allaient en ville boire, tu vois, mais que...
Oui, ben en fait c'est ça, ils vont en ville boire. Après l'alcool, tu peux en acheter dans les supermarchés. La plupart du temps, en effet, ils vont boire en ville et ils reviennent ivres dans les communautés. Donc voilà, le problème est que déporté, entre guillemets, hein.
Oui, et du coup, juste une petite précision, si t'es un homme célibataire qui arrive tout seul ou une femme célibataire qui arrive tout seul, je suppose qu'il y a des précautions à prendre, que ce soit soit avec les femmes aborigènes, soit avec les hommes aborigènes. Est-ce que tu aurais un conseil ou deux à donner par rapport à ça?
Alors, clairement, je déconseille aux femmes d'aller toutes seules à Arnhem Land. Par expérience, Sylvie, pour ceux qui la connaissent, Boussifle, a fait cette expérience. Elle a fini en prison.
Ah oui, elle a fini en prison.
Oui, Sylvie a fini en prison. Ouais, il y a eu des soucis en fait. Elle pensait comme moi, bah allez, je vais aller voir Jalou, salut, ça va?
Coucou Sylvie.
Sylvie avec son. Ouais, coucou Sylvie, avec son énergie un peu fofolle. Sauf que ça s'est assez mal passé pour elle. Oui, il faut quand même faire très attention. Faut pas oublier, comme on dit depuis le début, que c'est une terre hostile, il y a des règles, que ce soit au niveau des aborigènes comme du gouvernement australien, et on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. D'autant plus que Sylvie parlait très mal anglais. Ça, c'est aussi une chose, un point important. Il faut quand même si les aborigènes ont leur dialecte, ils savent parler anglais, mais il faut quand même avoir des notions ou de l'anglais assez complet pour arriver à s'exprimer correctement. Parce que si vous venez à vous faire contrôler par le gouvernement australien, que vous soyez susceptible de présenter tous vos papiers et expliquer pourquoi vous êtes là correctement. Parce que sinon, clairement, vous finissez au poste, hein. Les rangers ne plaisantent pas, quoi, clairement. Donc du coup, oui, il faut faire attention. Qu'on soit un homme ou une femme, il y a des règles à respecter. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de ne pas forcément y aller seul.
Est-ce qu'on peut juste faire un petit point sur le tarif, le coût que ça coûte pour aller là-bas? Parce que il y a le billet d'avion, ensuite, mine de rien, il y a le billet d'avion pour faire Darwin Gove, qui est, je crois, pas non plus donné, quoi, je sais plus de mémoire. Et puis après, il y a la location de voiture, il y a la nourriture à acheter là-bas, qui coûte relativement cher.
Oui.
Je sais pas si parfois il y a des sous à donner aux aborigènes ou pas, quoi, je sais pas comment ça se passe, ça.
Et
Ouais.
si? Ben, en fait, en gros, faut pas se voiler la face, on paye quasiment à toutes les étapes, hein. Aller en Australie, c'est pas un séjour qui sera très économique. Déjà, d'une part, l'Australie, faut pas oublier que c'est une île. Donc, du coup, ce qu'ils n'arrivent pas à le produire sur l'île, ils l'importent. Donc, ça a déjà un coût énorme. La vie en Australie, les Australiens ont un train de vie qui est très élevé. C'est-à-dire que les salaires de base, nous, notre SMIC, eux, à peu près, les salaires de base, c'est à peu près deux fois le SMIC. Donc, vous voyez déjà, en fait, le train de vie, ce qui fait que quasiment tout coûte quasiment deux fois plus cher qu'en France. Forcément, encore plus en termes d'amnène. Étant une terre de réserve, il y a des petites supérettes, mais qui sont hors de prix. Là, c'est pareil, forcément, il faut manger, donc on consomme. Mais il faut avoir conscience que le coût de la nourriture là-bas est très très élevé. L'essence, pareil, le gasoil, c'est hors de prix. La location d'un véhicule, les billets d'avion. Alors les billets d'avion, c'est toujours pareil. Si vous arrivez à vous y prendre suffisamment tôt, vous savez que vous voulez partir en Australie, par exemple dans un an, ben là, en fait, c'est intéressant de prendre un billet tôt parce que les vols sont quasiment vides, vous pouvez avoir des bons tarifs. Si vous privilégiez, vous ne privilégiez pas un vol direct. Plus vous prenez d'escale, moins votre billet sera cher. Ça, c'est des petits détails, en fait, qui sont importants. Mais il y a des fois où vous pouvez attendre. Moi, par expérience, la première année où j'y suis allé, comme je le disais, j'avais pas beaucoup de sous. J'ai passé 24 heures à Singapour. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas sortir parce que nos bagages sont enregistrés. On est dans l'aéroport, il faut attendre. L'aéroport, c'est une ville dans la ville, mais...
Mais c'est chiant.
Mais c'est chiant, oui, c'est le terme. C'est clairement le terme, quoi. Donc ça, après, sinon, il faut compter à peu près 1 500 € aller-retour, entre 1 500 et 2 000 € pour aller jusqu'à Gove. Comme tu le disais, en fait, la liaison Darwin-Gove est très chère parce qu'il y a très peu d'avions qui font la liaison. C'est des petits avions. C'est 300 dollars, je crois, de mémoire. Mais c'est pas, en fait, c'est toujours le même truc. C'est que ça fluctue tellement en fonction des taux du dollar, du nombre de passagers, de la disponibilité, de la situation sanitaire, parce que là, maintenant, on le sait très bien que les vols vont être rares et les prix vont monter. Et après, la location du véhicule. Alors, la location du véhicule, en plus de l'assurance, parce que c'est pas tout de louer un véhicule, il faut aussi l'assurer. Alors là, si maintenant on loue un véhicule bas de gamme, basique, ou un véhicule haut de gamme, ça va du simple au double. Parce que bah forcément, les loueurs ont des 4x4 qui tiennent un peu la route, ou d'autres qui sont limite voués à la destruction, mais qui louent quand même. Donc ça peut aller, pareil, de 1 500 $ jusqu'à 3, 4, 5, 6 000 dollars.
Pour combien de temps?
Ça, c'est suivant le temps, justement. C'est pour un ou deux mois, ou généralement, c'est deux mois, il faut tabler 3 000 dollars, ouais.
Ouais, d'accord. Ça fait 50 dollars par jour, à peu près.
Voilà, à peu près, ouais. Plus l'assurance. Donc là, c'est pareil. Des fois, les compagnies où vous payez tout en même temps. Le plus simple, clairement, c'est de louer un 4x4 à Darwin, parce que là, Darwin, il y en a beaucoup. C'est là où les tarifs sont les meilleurs. Partir après de Darwin, faire la route, faut en avoir envie, mais c'est là où ça coûtera le moins cher. D'un 4x4 équipé et tout, c'est possible. Après, sinon, sur Gove, c'est possible aussi, mais c'est vraiment, vraiment très, très cher. Et après, du coup, là-bas, comme tu le disais, ben, en effet, suivant ce que vous allez faire avec les aborigènes, ben, il faut les payer. Moi, je trouve ça un petit peu normal aussi, parce que, ben voilà, s'ils vous emmènent couper un Hidaki dans le bush, ben, c'est un peu normal de donner en échange un budget à l'aborigène, en échange du travail fourni. Mmh. Alors là, généralement, c'est 200, 300, 400 dollars, suivant l'aborigène avec lequel vous le faites, suivant la peinture qui sera faite ou non sur l'instrument. Après, il faut faire attention, parce que c'est sûr qu'il y a certains aborigènes qui vont vous demander de l'argent pour tout et pour rien. Si vous êtes nouveau et que vous êtes un petit peu naïf, vous pouvez très vite vous faire déplumer.
C'est ce que j'avais cru comprendre, ça, ce côté-là, où les aborigènes, ils savent aussi très bien ce qu'ils font, en tout cas certains, tu vois. Donc du coup, j'avais eu l'impression, moi, en Australie, qu'il y avait un biais un peu comme ça par rapport à nous, touristes comme moi, quoi, qui étaient arrivés là-bas, où il y avait... beaucoup une victimisation des aborigènes par rapport à ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont vécu, ce qui est vrai, quoi. Je veux dire, il y a vraiment une histoire lourde, mais à la fois aussi une idéalisation des aborigènes et un peu un truc où tu te méfies pas, en fait. Tu dis, purée, ils sont victimes, donc ils sont gentils, tu vois, en gros. Mais j'ai pu remarquer que non, c'était pas forcément le cas, et qu'il y avait quelque chose où les aborigènes jouaient aussi sur le côté exotique que les blancs venaient chercher, tu vois, par rapport à ça, et qu'ils savent très bien ce qu'on attend aussi quand on arrive là-bas.
Bien sûr, bien sûr.
Ok, ouais, donc ça fait une petite somme, hein.
Oui, c'est clairement un budget à prendre en compte. Alors c'est toujours pareil, l'avantage si vous partez à plusieurs, comme l'a fait Loïc, c'est que du coup tout est réparti. Là ils sont partis à 4 je crois, ou à 5, non ils étaient 4. Du coup bah forcément, tout le coût du trajet, tout le trajet, la location sur place, etc. est divisé par 4 ou 5. Donc là après le coût n'est pas le même. Voilà, c'est des choses à prendre en compte. C'est sûr que tout seul, tout de suite, ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait beaucoup. Ok, ben, je crois qu'on a fait à peu près le tour de la question. Est-ce que tu as des choses à rajouter, toi, par rapport à ça? Juste par rapport à l'organisation du voyage?
Ben, au niveau des affaires et tout ça, c'est pareil, il faut aussi être prévoyant. Pensez bien que vous allez dans une terre hostile, donc vous partez pas à la plage en bikini, hein. Ça reste une terre hostile avec des moustiques, des araignées, des sandflies. Vous serez très vite surpris, de toute façon, au départ, le premier jour passé là-bas, vous rendrez vite compte de « Ah ben mince, j'ai oublié ça, ça, ça et ça ». Le problème, c'est qu'après, si vous voulez l'acheter sur place, c'est possible, mais ça va vous coûter un bras. Donc, moi, c'est clair, je peux inviter tout le monde à essayer de réfléchir à un futur voyage en Australie, mais soyez prévoyant en amont. Vraiment, prenez le temps de planifier, prenez le temps de bien prendre les bons contacts, un petit peu savoir ce que vous voulez faire là-bas et surtout pourquoi vous voulez y aller. Vraiment, si c'est juste pour faire du simple tourisme ou si c'est quelque chose de plus spirituel, plus profond en fait.
Surtout que le simple tourisme à l'heure actuelle de notre planète et du monde, comment ça tourne, le voyage doit être animé par, c'est ça comme tu dis, vraiment un vrai appel, quoi.
Ben, en fait, oui, c'est clairement ça, Gauthier. Comme tu le dis, c'est un appel. C'est-à-dire qu'il faut que vous sentiez ça au fond de vous, cet appel d'aller à la rencontre des aborigènes et d'apprendre de cette culture vraiment en direct.
Ok, bah super, bah je te propose, dans le dernier podcast, il y a Cyril, bah tu peux peut-être raconter Greg, il y a Cyril qui devait avoir l'autorisation d'un aborigène.
Oui, alors dans le dernier podcast, on parlait de Cyril, alias Buffalo, qui en fait n'avait pas eu le temps de nous transmettre suffisamment tôt les enregistrements qu'il avait fait avec Roy, parce qu'il voulait demander l'autorisation de diffusion. Donc il a eu cette autorisation. Donc c'est avec plaisir qu'on va vous diffuser deux petits enregistrements. Donc que Cyril est parti en Australie et a rencontré Roy Bourniella, qui se situe du côté de Ramingining. Et en fait, Cyril a eu la chance d'échanger avec cet aborigène et d'apprendre en fait ses patterns traditionnels, ses manikei. Donc là, on va entendre un pattern qui s'appelle le min-min, qui est le white cacato, en fait, qui est la représentation de cet oiseau. Donc dans le premier morceau, c'est Roy qui va chanter ce qu'il joue à l'instrument. Et après, en fait, on va entendre un deuxième morceau où là, du coup, ce n'est pas Roy qui joue, mais Roy chante. Et c'est Cyril qui, en fait, joue de l'instrument sur le pattern que Roy lui a enseigné.
Ouais, super, et ben on écoute ça tout de suite. Men, men. vient d'écouter Cyril qui joue avec Roy, avec un style, ce que tu m'expliquais là pendant qu'on écoutait, avec un style qui se situe entre le Mago et Hidaki, donc c'était plus lent, ou c'était assez particulier par rapport à ce qu'on avait écouté, c'est intéressant, ouais.
Mm-hmm. Ben c'est ça, en fait, disons que la communauté où se situe Roy, c'est Ramin Ginning, ben en fait, elle se trouve pile poil entre Malin Grida et Irkalla. Donc c'est un peu, en quelque sorte, un mix entre les deux styles. Et là, ce qu'on a entendu, c'est quand même un vieux son, on l'entend bien, comme on l'expliquait dans les podcasts, une note déjà grave, et des sons en fait totalement différents. C'est vraiment quelque chose de très, très vieux, en fait, comme type de pattern.
Je trouve que c'est chouette de finir là-dessus, parce que Cyril a fait la démarche d'y aller aussi. Voilà, y a pas non plus énormément de gens qui vont rencontrer les aborigènes et qui vont apprendre avec eux, comme toi t'as fait et tout ça. Donc je trouve que ça fait une belle conclusion par rapport à nos 10 épisodes qu'on a fait sur la culture aborigène et l'approche du Hidaki et du Mago. On arrive au bout, là, on a largement dépassé notre timing. Mais je voulais te remercier quand même, Greg. Vous qui nous écoutez, vous savez pas trop ça, mais à chaque fin d'épisode, avec Greg, on se dit « purée, ça y est, on en a encore fait un ». On était vraiment fiers de nous et super contents de partager ça. Et du coup, moi, je suis très heureux d'avoir participé à ça. Donc voilà, je voulais te remercier officiellement devant tout le monde, Greg.
C'est très gentil. Bah, il en va de même pour moi, Gauthier. On va se jeter des fleurs tous les deux. Mais c'est vrai que je trouve que c'est vraiment du contenu de qualité. Et j'espère que bah voilà, chacun profitera et partagera cette chose avec d'autres personnes, parce que c'est une chance d'avoir ça. On a pris le temps de le faire pour vous, et Gauthier, toi aussi, tu prends énormément de temps après dans le mastering et dans le mixage derrière. Donc du coup, merci à toi aussi, et c'est vrai que j'espère qu'on arrivera à diffuser ce contenu au plus grand nombre, pour que bah voilà, les gens puissent vraiment se rendre compte de ce qu'est un aborigène, de comment on y va, de ce qu'est un didgeridoo, un hidaki, et d'en apprendre un petit peu plus. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour moi.
Ouais, pour moi aussi, et je suis vraiment content qu'il y ait cette série de 10 podcasts, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commencent le didgeridoo et qui se posent des questions par rapport aux aborigènes, comment ça se passe et tout ça, et j'avais jamais de ressources vraiment sérieuses sur lesquelles les renvoyer, et là maintenant il y aura quelque chose, quoi. Je vais faire un dossier par rapport à ça, et du coup, comme tu dis, on se jette un peu des fleurs, mais franchement, je suis très heureux. Bon, bah, je te dis à la prochaine, hein. On recommencera peut-être d'autres choses comme ça.
Allez, portez-vous bien.
À bientôt. Ça y est, notre série est terminée, alors au risque de me répéter, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à enregistrer cette série de podcasts avec Greg. Je le remercie vraiment beaucoup, parce que ça lui a pris du temps, et on a dû organiser les épisodes, on a dû les enregistrer, tout ça, il a pris de son temps. Pour ma part, je vais continuer les podcasts avec d'autres thématiques qui vont être les thématiques que je trouverai sur le moment, des choses que j'aimerais partager. En attendant, vous pouvez noter ce podcast, et vous pouvez sur Apple Podcast ou Google Podcast. J'ai vu qu'il y avait eu d'autres notes, donc ça fait plaisir. Vous pouvez noter, commenter, tout ça, c'est toujours chouette et très encourageant. Vous pouvez venir sur le forum de Wacademy pour participer aux échanges. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous entendez ces mots, c'est que vous avez tenu jusqu'au bout et que vous avez suivi certainement une grosse partie de la série ou toute la série. Donc merci beaucoup, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut !